14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Elle avait pris des risques incroyables. On a même cru un moment qu'elle était devenue folle. Diane Fosset, zoologiste passionnée par la vie des gorilles, avait décidé de vivre au milieu de leur communauté au Rwanda. Elle est morte ce week-end, assassinée non pas par les grands singes terrifiants, mais vraisemblablement par des braconniers.
Bonjour. Qui a tué Diane Fosset, la femme qui avait voué sa vie à la défense des gorilles 36 ans après son meurtre dans la jungle du Rwanda, demeure une énigme. Une histoire qui hésite entre une vérité un peu trop cousue de fil blanc, celle de braconniers qui avaient juré la perte de cette Américaine qui leur barrait la route, et puis d'autres pistes, celle d'un scientifique jaloux de son travail, celle d'une vengeance sur fond de superstition et de talismans magiques, ou encore celle d'une exécution commandée au nom d'intérêts financiers. Avec le temps, le dossier démontre que Diane Fosset gênait beaucoup de monde, au point d'être devenue une femme à abattre. Dernière hypothèse, aurait-on voulu la faire taire alors qu'elle s'apprêtait à délivrer un encombrant secret gênant pour des personnalités haut placées ? C'est le mystérieux roman de cette mort que je vous propose aujourd'hui de feuilleter. Pourquoi tuer cette scientifique si ce n'est pour l'empêcher de poursuivre l'œuvre de sa vie ? Qui gênait-elle à ce point ? Question que nous allons poser aujourd'hui à nos invités.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Aujourd'hui dans l'heure du crime, le meurtre de Diane Fosset, deux jours après la Noël 1985. La plus célèbre des primatologues, âgée de 53 ans, défenseuse acharnée des gorilles, est retrouvée massacrée au cœur d'une forêt du Rwanda, là où elle vivait. Ce 27 décembre 1985, vers 6h30, le cuisinier du camp Karisoke, fondu dans le décor de l'épaisse forêt tropicale du parc des volcans au Rwanda, pousse la porte d'une petite bicoque en tôle, celle de Diane Fosset, la patronne de ce centre de recherche perdu dans la plus sauvage des natures. Le cuisinier apporte comme chaque matin un pot d'eau chaude. Il note tout de suite le désordre dans la maison, des objets renversés dans la cuisine. La deuxième pièce, la chambre, est plongée dans la pénombre. Le chaos semble y régner. L'homme s'approche et découvre le corps de Diane Fosset. Elle est sur le sol au pied de son lit. Elle repose sur le dos, vêtue d'un t-shirt blanc, d'un pantalon de survêtement et de chaussettes. Elle a les yeux grands ouverts. Son visage a été fracturé à coups de machette, 6 au total. Le jeune scientifique américain Wen Maigai, qui loge à une cinquantaine de mètres, est alerté. Il entre à son tour, remarque les traces de sang sur le sol. Près de la main droite de la victime, son revolver, une cartouche est visible. Diane n'a pas eu le temps de charger le barillet. Sous le lit, l'arme ensanglantée du crime, une machette qu'on appelle ici panga, similaire à toutes celles utilisées dans le camp. Wayne My Guy recouvre le corps d'un drap. La scène de crime ressemble à s'y méprendre, à un cambriolage qui aurait mal tourné. Le meurtrier, qui connaissait bien les lieux, a découpé à la cisaille un morceau de tôle pour pénétrer en rampant dans la cabane. Il a agressé Diane Fosset, puis a mis la maison à sac. La table de nuit est en partie brisée, les tiroirs ouverts, les affaires de la victime dispersées dans tous les sens. Mais à y regarder de plus près, tout cela ressemble à une mise en scène. Une liasse d'un peu plus de 1000 dollars n'a pas été emportée, pas plus que le revolver de Diane Fosset. Quelques bijoux sont toujours là. Aucun autre objet de valeur ne manque à l'appel. Les pisteurs qui travaillent pour la primatologue font le tour du camp à la recherche d'indices. Ils remarquent dans la boue fraîche deux séries de traces de pieds qui semblent provenir du petit village voisin, des pas qui se sont dirigés vers le bungalow de Wayne Maguire, puis vers celui de Diane Fosset, des pieds nus, la façon dont peuvent se déplacer les autochtones. Les traces sont protégées, mais les gendarmes rwandais n'y prêteront aucune attention. Aucun relevé d'empreinte digne de ce nom ne sera d'ailleurs pratiqué. La nouvelle de la mort brutale de Diane Fosset est aussitôt connue de l'ambassade américaine à Kigali et fait le tour de la planète. La scientifique est une célébrité mondiale. Elle est la femme qui connaît le mieux les gorilles, ces grands singes menacés par l'homme et la déforestation intensive. 18 ans que Diane Fosset a fait des pentes du mont Visoké, qui surplombe sa maison, son terrain d'études et de réflexion. Elle a depuis la première heure déclaré la guerre aux braconniers, les intimide, les menace, les provoque. Elle va un jour enlever une petite fille dont le père avait capturé un bébé gorille. Elle proposera un échange, affaire qui lui vaudra un avertissement du tribunal local, pas suffisant pour la décourager. a continué à faire sa propre police dans la forêt. Alors, les braconniers ont-ils voulu éliminer cet ennemi déclaré ? La piste des braconniers, évidemment, c'est une piste séduisante, évidente un peu trop même pour expliquer sans doute tout de suite la mort de Diane Fossé. On va examiner au fil de cette émission les autres pistes et on va voir évidemment qu'elles ne manquent pas. Avant de revenir sur cette scène de crime, je voudrais qu'on s'arrête sur la victime Diane Fossé. On le fait avec vous, notre premier invité dans l'heure du crime, Fabrice Martinez, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui de l'heure du crime. Vous êtes ancien commandant de police et votre expérience va évidemment nous servir sur cette scène de crime. Et vous êtes surtout fondateur de l'association Gorilla, créée en janvier 1986, qui milite pour la protection des gorilles et des grands singes. Alors, Fabrice Martinez, c'est la mort de Diane Fossé qui a provoqué la création de votre association. Qui est-elle, Diane Fossé ? Elle est très très connue à l'époque, hein ?
Alors, Diane Fossé était déjà mondialement connue, mais pas autant qu'elle ne l'est aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que bon, elle était américaine, elle avait déjà publié son livre « Gorille dans la brume » et elle avait déjà fait l'objet de deux publications dans le magazine National Geographic, donc ça lui a valu une notoriété mondiale. Pour autant, c'est à partir de 1988, avec le film « Gorille dans la brume », le film hollywoodien qui est paru dans les salles de cinéma en 1988, qu'elle a acquis cette notoriété mondiale et qu'elle est devenue une icône, une véritable icône de la protection animale. Donc c'était une Américaine qui, à l'âge de 35 ans, a décidé de quitter son pays, son travail, également son fiancé, pour aller s'installer sur les pentes de volcans en République démocratique du Congo. Donc c'était une femme qui était extrêmement courageuse et déterminée, parce que pour aller vivre sur ces hauteurs où il pleut et grêle, c'est vraiment pas évident.
Et c'est un paysage que vous connaissez bien, Jean-Paul Marie, bonjour.
Bonjour.
Grand reporter, écrivain, vous avez à l'époque réalisé une série de reportages pour le Nouvel Observateur et sur Diane Fossé et sur cette mort, notamment l'un d'eux qui est intitulé « Meurtre sur la planète des singes », cette région étonnante. Décrivez-nous un petit peu ce lieu où est morte Diane Fossé, c'est au milieu de nulle part, on a l'impression.
C'est surtout au-dessus de nulle part, parce que c'est très haut. C'est couvert de brume, de pluie, du matin au soir. Il fait froid. Et d'ailleurs, un médecin disait que dans ce genre de climat, un humain tient à peu près 2 ans, quoi. Ah. Et on patauge dans la boue, on est dans la brume. On est aussi dans le monde des gorilles, hein, donc assez au-dessus des villages, des cultures, etc. On est un peu en dehors du monde. On est en dehors du monde, et quand on est là-bas, il n'y a qu'une chose qui peut vous tenir, c'est votre feu, votre force intérieure. Et c'est ce qu'elle avait, Diane Fossé. Elle avait ce feu qui brûlait en elle, et son amour des gorilles, qui va devenir...
Envahissant, on a l'impression.
Oui, qui va la submerger. C'est-à-dire, en fait, elle va peu à peu, elle dit « mes gorilles ». Elle va devenir à la fois propriétaire, mais sans mauvaise pensée, mais surtout, elle va devenir tellement proche de... tellement propriétaire, elle va se sentir tellement responsable d'eux que finalement, elle, au nom de cet amour, au nom de ces gorilles qui se faisaient massacrer, elle va devenir quelque chose qui est très proche. Elle a une relation presque métaphysique avec les.
En tout cas, elle est omniprésente, hein, sur ces pentes du mont Visoké. Cette occidentale, on ne voit qu'elle. Elle peut gêner tout le monde finalement.
Bah, elle gêne tout le monde. D'abord parce qu'elle fait 1m80, c'est une femme. Elle vit seule. Alors déjà, ça pose un petit problème dans ce pays. On se demande pourquoi elle est aussi, elle défend aussi les gorilles. Il y a une espèce de fantasme. Une femme, King Kong, les gorilles, vous voyez. Ça marche pas du tout. Mais en fait, elle est très visible parce qu'elle va s'opposer avec une force inouïe, et on reviendra peut-être
bien
là-dessus,
bien sûr.
On va s'opposer à tout ce qui est contre les gorilles, et ils sont tous contre les gorilles.
C'est ça.
Même le climat, puisque les gorilles vivent dans ce climat, et ils meurent de pneumonie parce que les braconniers ont chassé des vallées, et qu'ils ont été obligés de se réfugier dans la montagne. Donc les gorilles eux-mêmes sont victimes
du climat. Ils sont pourchassés. Et on a quelqu'un, un troisième invité dans l'heure du crime, c'est le docteur Philippe Bertrand. Bonjour docteur Bertrand.
Bonjour Monsieur Richard.
Merci beaucoup vous aussi d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. On vous a invité parce que pour plusieurs raisons, évidemment, parce que vous connaissez surtout très bien Diane Fossé. Vous avez fait votre service militaire en tant que chirurgien au Rwanda à l'époque, et vous avez rencontré cette défenseuse des gorilles à plusieurs reprises. Racontez-nous en quelques mots, docteur Bertrand, votre rencontre avec Diane Fossé.
Alors Diane Fossé, je l'ai rencontrée en avril 85. Pour moi, c'était une légende, ça me fascinait. J'avais été au Rwanda à cause des gorilles, j'avais lu son livre avant de partir, enfin voilà, et tout le monde m'avait dissuadé de la rencontrer en me disant « Tu sais, elle est acariâtre, elle supporte pas les gens, tu pourras pas y aller comme ça. » En fait, j'ai trouvé une femme absolument charmante, marrante, drôle, puis passionnante, évidemment, mais ça, c'était pas une surprise, et extrêmement sympathique, quoi.
Alors, docteur Bertrand, vous vous êtes rendu sur place et vous êtes allé sur cette scène de crime. Vous êtes un des rares témoins que l'on ait sous la main, comme ça, qui connaît cette scène de crime très confuse. C'était une attaque très bien organisée ?
C'est-à-dire que je suis rentré dans la chambre de Diane. Elle était couchée à côté de son lit. Il y avait pas mal de sang. Et elle avait la machette qui était juste à côté d'elle. Elle avait à côté d'elle un de ses deux revolvers avec le chargeur de l'autre. Donc évidemment, ça ne pouvait pas fonctionner. Et le décès remontait à plusieurs heures de façon évidente. Et j'ai pas jugé utile de pratiquer une autopsie, la cause de la mort étant parfaitement évidente, quoi. Le tiroir de sa table de nuit était ouvert, je pense que c'était elle qui avait, devant une menace, recherché son revolver. Et il semblait pas y avoir de fouille, de destruction, de quoi que ce soit dans la pièce. J'ai aucun souvenir de saccage de sa maison, pas du tout.
Alors, cette scène de crime, elle est importante parce qu'effectivement, c'est le début de cette affaire. On peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de précautions qui ont été prises par les enquêteurs locaux, et vous avez pu le constater vous-même.
J'ai l'impression que la police judiciaire n'était pas hyper développée. Moi, j'y connaissais strictement rien. Mais j'ai quand même remarqué qu'un des policiers qui est rentré après dans la pièce a pris délicatement la machette à la main, sans gants, par le manche, pour la mettre dans un sac en plastique. Donc, ça m'a un petit peu choqué quand même, quoi.
Les autorités rwandaises ont envie de boucler au plus vite l'enquête sur cette mort qui fait grand bruit et occasionne une bien mauvaise publicité pour le pays. Les conclusions vont prendre une surprenante direction. 48 heures après le crime, la gendarmerie militaire est à pied d'œuvre à Carisoke. Wayne McGuire, l'un des assistants de Diane Fossé, est brièvement interrogé sur la découverte du corps. La machette mortelle, la fameuse panga, est saisie, mais celle-ci n'a cessé de passer de main en main. Aucune empreinte ne pourra être retenue. Les soldats embarquent 5 pisteurs qui étaient au service de la primatologue, des hommes dévoués, travaillant depuis longtemps pour elle. Personne ne croit à leur implication, mais ils sont jetés en prison. Ils vont y passer des mois, sans y être entendus et sans pouvoir donner des signes de vie à leur famille. 11 février 87, un mois et demi après le meurtre, Wayne McGuire est convoqué pour un interrogatoire au poste de police. Quelques jours plus tôt, il a été retrouvé dans la maison de Diane Fossé. Un garde l'a surpris en train d'en sortir alors que le lieu est interdit de visite. Il a failli se faire tirer dessus. Les autorités le soupçonnent d'avoir voulu voler des travaux scientifiques de Fossé, peut-être pour les publier à son compte. Placé en garde à vue, le chercheur est vigoureusement questionné par un procureur. Il est interrogé sur les braconniers, puis il est accusé d'avoir commis le meurtre. Il dément. Il est finalement relâché après avoir accepté de signer un procès-verbal reconnaissant son intrusion. Dans les heures suivant la mort de Diane Fossé, les enquêteurs rwandais, tout comme les représentants de l'ambassade américaine, ont saisi des échantillons d'une touffe de cheveux bruns que serrait Diane Fossé dans sa main droite. S'agit-il de ses propres cheveux qu'elle aurait arrachés en se protégeant ou ceux de son agresseur? Les autorités locales adressent un prélèvement en laboratoire de génétique français à Paris. Les Américains confient le leur au FBI qui enquête sur le meurtre. 7 mois après, le Rwanda annonce que les cheveux appartiennent à un homme de race blanche. Le FBI, lui, ne délivre aucun résultat. Il ne parviendra d'ailleurs à aucune conclusion précise. Avec cette découverte, la figure de l'assistant américain Wayne McGuire revient au premier plan. La justice rwandaise est persuadée de tenir le coupable et s'apprête à l'arrêter. Quelques jours avant que le mandat soit délivré, McGuire quitte le pays, s'envole vers les États-Unis. Un mois plus tard, le fugitif donne une conférence de presse à Los Angeles. Il déclare qu'il n'a absolument rien à voir avec la mort tragique de Diane Fossé, qui était son amie, sa professeure, son mentor. 11 décembre 86, Wayne McGuire est jugé en son absence par un tribunal de Kigali. Aucun avocat présent, aucun témoin convoqué, aucune preuve ni pièce à conviction. Le procès est expédié en une demi-heure. L'accusé est reconnu coupable d'avoir assassiné Diane Fossé pour lui voler ses travaux. Il est condamné à la peine de mort. Un autre homme qui devait comparaître, le pisteur Emmanuel Rwereneka. Il était lui aussi accusé de crime. Il aurait voulu se venger après avoir été renvoyé par Diane Fossé. Rwereneka ne se présentera jamais à l'audience. On le retrouve mort, pendu dans sa cellule. Mort mystérieuse, mais mort qui serait une forme d'aveu pour les autorités. Le Rwanda vient alors de boucler en un temps express le dossier Fossé. Dossier, on le voit, bouclé à la va-vite. Il y a bien d'autres éléments qui vont semer le trouble, dont une série de lettres troublantes écrites par Diane Fossé. On en parlera dans les chapitres suivants. Alors, que penser de cette mise en cause de Wayne McGuire? Il est le premier coupable désigné. Docteur Philippe Bertrand, vous avez bien connu Diane Fossé et vous avez connu également Wayne McGuire. Il était depuis peu l'assistant de Diane Fossé, c'est ça?
C'est un type très introverti, qui ne parlait pas beaucoup, il ne parlait pas swahili, il ne parlait pas français, donc il ne parlait qu'anglais, ce qui limitait complètement sa communication avec les gens dans le coin, évidemment, puisqu'on n'utilisait que le français avec les Rwandais. Oui, c'était difficile pour lui, il était un peu perdu, c'est quand même très isolé Carisoké, et on sentait qu'il avait du mal à s'acclimater là-haut, mais enfin je pense que pour tout le monde ça aurait été difficile, mais pour lui c'était difficile.
Pourquoi cet acharnement des autorités rwandaises contre lui ?
Alors la mise en cause de Wayne McGuire, elle repose sur un seul événement factuel, c'est que quand j'ai fait l'examen du corps de Diane, elle avait des cheveux européens dans la main. Et j'ai pas voulu pousser plus loin l'examen, j'ai donné la moitié de ses cheveux au procureur de la République du Rwanda et l'autre moitié à la secrétaire d'ambassade des États-Unis qui était présente dans la pièce. Dès le lendemain, il y avait une autre américaine à Ruhengeri qui me disait « Alors c'est quoi cette histoire de cheveux et tout ?» Donc ça veut dire que la secrétaire de l'ambassade des États-Unis n'avait pas été très discrète comme je l'avais exigé. Et sans qu'il y ait aucune enquête, aucun examen de quoi que ce soit, Wayne McGuire a été incriminé comme étant le meurtrier parce qu'il y avait des cheveux européens dans la main de Diane. Sauf que ces cheveux pouvaient tout à fait être les cheveux de Diane elle-même. Tout simplement, quoi.
Et évidemment, ça, on n'a pas la réponse, puisque ces analyses, apparemment, se sont perdues. Jean-Paul Marie, grand reporter et écrivain, vous avez enquêté, vous êtes allé sur place, dans ce coin du Rwanda. On a le sentiment que les autorités rwandaises, elles veulent aller plus vite que la musique, finalement, parce que là, on a un coupable sous la main, on va vite, il est même condamné.
Elles sont embarrassées, les autorités rwandaises. Elles sont embarrassées parce que, à cause de l'image et de la réputation de Diane. Donc, trouver un coupable vite, ça c'est ce qu'on fait dans tous ces pays-là, le plus rapidement possible. D'abord on met en prison, puis ensuite on voit, même si on n'interroge pas. Trouver en plus un coupable européen, enfin américain, c'est encore mieux. Parce que c'est une histoire entre blancs, grosso modo. Et puis, ça ne soulève pas les autres problèmes que soulève la mort de Diane Fossé. Bon, alors, Wayne McGuire, on le voit bien passer, ramper jusqu'à la case de Diane Fossé, de ne pas rentrer par la porte d'entrée, mais
Il a la clé, d'ailleurs.
Oui, dont il a la clé. Découper, en plus, il n'y aurait pas trop de... Elle ne se méfierait pas d'elle, beaucoup, voyez-vous. Mais lui, alors, il aurait découpé à la cisaille l'endroit exact où il n'y a pas de meubles. Donc il peut gêner l'intrusion. Et il aurait découpé à la cisaille, il serait rentré avec une machette, il l'aurait fracassé, et ensuite il aurait laissé la machette avec ses empreintes, et il serait parti. Ça ne tient pas la route. Ça tient pas la route. Alors il y a les cheveux européens qui effectivement...
Alors cette histoire de cheveux, tout de même, s'arrête sur ce point, Jean-Paul Marie, parce que il faut expliquer ça. Elle a une touffe de cheveux dans la main droite, et c'est d'ailleurs, il nous l'a dit...
Le
docteur Bertrand qui saisit ses cheveux, il vient de nous le dire, on a le témoin vraiment sous la main, le docteur Bertrand vient de nous le dire, c'est troublant, ces cheveux européens.
C'est troublant, et ce qui est encore plus troublant, c'est qu'on n'ait pas fait les examens complémentaires qui auraient été de comparer les cheveux dans sa main aux cheveux de Diane Fossé et aux cheveux de Wayne McGuire. On aurait comme ça eu la réponse très simple à une question, effectivement.
Il fallait faire des prélèvements, c'est tout simple.
Il fallait demander à Wayne McGuire de donner un bout de ses cheveux. Et puis aujourd'hui, on sait très bien faire ça, et puis même à l'époque. Donc ça, c'est troublant. C'est vrai que c'est troublant qu'elle ait des cheveux dans la main, mais je crois que c'est un peu le détail qui cache la forêt. Quoi. Et la forêt, c'est dans la forêt qu'il faut chercher la réponse.
Et c'est dans la forêt qu'il faut chercher la réponse. Et on va continuer dans cette heure du crime à chercher cette réponse dans cette forêt profonde. Une des pistes, j'ai envie de dire, pour avoir un mauvais jeu de mots, c'est la piste des pisteurs qui sont arrêtés là tout de suite par les autorités locales. Fabrice Martinez, fondateur de l'association Gorilla, ces pisteurs qui sont arrêtés, ce sont des proches de Diane Fossé, c'est des personnes qui étaient à son service depuis des mois. On cherche là aussi à trouver tout de suite une solution à ce crime.
Absolument. Nous avons affaire d'abord, donc la police, la première chose qu'elle a faite, effectivement, parce qu'il faut quand même donner des détails sur la scène de crime, ils ont fait un minimum, hein, on peut pas dire que les moyens de la police rwandaise étaient très importants, mais enfin, ils ont tout de même pris des photos de la scène de crime, ils ont pris des photos des empreintes de pas qui étaient à l'extérieur, ils ont également arrêté dans un premier temps, et c'est typique dans une enquête, ben, tous les proches de la victime, ceux qui étaient présents au centre de recherche de Carizoke, qui étaient des travailleurs au service de Diane Fossé. Mmh. Donc ils ont été placés en garde à vue ou en détention parce que la garde à vue chez eux dure très longtemps. Ils ont été tous entendus, etc. Et donc à partir de là, effectivement, ils ont commencé une enquête qui n'a pas été finalement soutenue par la voix américaine parce que les Rwandais auraient imaginé, en tout cas ils auraient souhaité, que les Américains s'impliquent davantage dans cette enquête. Et ça n'a pas été le cas. Aucun enquêteur américain n'a été dépêché par l'ambassade sur place.
Mmh. Et ça c'est important à souligner parce qu'on a dit que le FBI était sur le coup, mais finalement le FBI, il a envoyé personne. Il y a juste la représentante finalement de l'ambassade qui va aller sur les lieux.
C'est ça. Les Rwandais ont été très étonnés de l'attitude américaine qui a consisté finalement à se tenir éloignés de l'enquête. Alors j'imagine qu'effectivement ils se sont intéressés d'assez près à tout ce qui se faisait, notamment par la police rwandaise et la justice. Mais toujours est-il que, contrairement à ce qui se fait ailleurs, et notamment en France, imaginez qu'un Français soit assassiné à l'étranger. Immédiatement, la DCPJ envoie des enquêteurs. Mmh. La DCPJ, c'est la Direction Centrale de la Police Judiciaire. Et les États-Unis, on aurait pu s'attendre qu'effectivement, ils fassent la même démarche. Mmh.
Jean-Paul Marie, un mot là-dessus. Comment expliquer, non pas ce désintérêt des autorités américaines, parce que l'ambassade va quand même s'activer et bouger, mais le fait que on met pas les moyens pour faire aboutir cette enquête.
J'ai pas réponse là-dessus. Je ne sais pas ce qui a motivé les autorités américaines avec Bay pour en faire si peu. Ce qui est, je ne vois pas. Je crois qu'il faudrait enquêter. Il faudrait poser la question aux anciens responsables du FBI et savoir ce qui s'est passé. Je ne crois pas que ce soit parce que il y aurait un ressortissant américain impliqué. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je remarque, si vous voulez, c'est qu'effectivement, il y a une enquête qui est faite, et là, M. Martinez pourra nous le préciser, qui est faite un peu, de façon un peu bancale. D'une part, on ramasse, on fait des photos, on fait des prises, et de l'autre, on met une machette qui est restée miraculeusement sur place, on la met en la prenant par la manche, c'est-à-dire en détruisant les empreintes, et on la met dans un sac. Donc ça ne tient pas la route.
Si la justice rwandaise s'est dépêchée de mettre un point final à l'affaire, une série de lettres va intriguer au plus haut point les amis de la disparue et faire apparaître de nouvelles pistes. Diane Fossé avait l'habitude de consigner ses faits et gestes dans des espaces de carnet de bord. Elle correspondait aussi régulièrement par courrier avec des collègues pour les tenir informés de ses dernières activités. Dans plusieurs de ses lettres, il lui arrive fréquemment d'évoquer la guerre qu'elle mène contre les braconniers. Elle aurait tout fait pour pouvoir les empêcher de nuire. Elle les haïssait au point d'être prête à les torturer afin qu'ils cessent leur sinistre besogne. Elle avait été brisée par la décapitation de son gorille favori, une femelle baptisée Digit, qui avait tenté de défendre sa famille contre des hommes armés. Cette mort ne cessait de l'obséder. Dans une lettre adressée à son collègue scientifique Yann Redmond, Diane Fossé relate l'arrestation d'un braconnier le 14 novembre 86, un mois et demi avant sa mort. Cet homme lui a été amené et elle n'a pas hésité à l'humilier. Elle a examiné ses habits et trouvé cousu dans la manche de son manteau un talisman, un petit sac de tissu contenant des morceaux de peau, quelques graines et de la poussière. Un mélange magique censé chasser les mauvais esprits. Elle s'est emparée de ce talisman et sacrée pour son propriétaire, se l'est approprié. Les Américains vont s'intéresser à ce braconnier expérimenté portant le nom de Atageka. Il aurait perdu la face en se faisant subtiliser son porte-bonheur. Atageka était emprisonné quand la scientifique a été tuée, mais il aurait pu envoyer quelqu'un pour récupérer son précieux talisman, un vol qui aurait tourné au bain de sang. Fabrice Martinez, fondateur de l'association Gorilla et qui connaissait bien cette affaire, Diane Fossé, que pensez de cette histoire de talisman, ce soumou, comme on l'appelle dans cette région ?
Vous l'avez bien résumé, mais personnellement, je dois vous le dire d'entrée, je n'y crois pas. Pourquoi ?
Et vous n'êtes pas le seul.
Oui, comme vous l'avez dit, ce braconnier fameux a été écroué à la maison d'arrêt de Rouen-Guéry, au pied des volcans, et donc il se trouvait en prison au moment des faits. Donc vous pouvez effectivement dire, ou on peut prétendre, qu'il aurait mandaté quelqu'un. Mais là encore, j'ai interrogé beaucoup de Rwandais qui travaillent dans le parc, etc. Et pour eux, cette hypothèse est somme toute ridicule. Donc moi, en tout cas, je n'y crois pas du tout. Après, on a parlé également de trafic d'or, parce que...
On va y venir, oui. Fabrice Martinez, au trafic d'or dans un chapitre suivant. Je voudrais qu'on en reste un petit peu à ces premières hypothèses qui commencent à se dessiner. Docteur Philippe Bertrand, qui était sur place quand Diane Fossé a trouvé la mort dans des conditions effroyables. Là, on retrouve un petit peu les braconniers. Elle leur voue vraiment une haine incroyable, Diane Fossé.
Il y avait une rivalité entre Diane Fossé et les braconniers, évidemment, puisque Diane Fossé protégeait les gorilles, les braconniers. Ça fait longtemps qu'ils n'attaquaient plus les gorilles, mais ils voyageaient dans le parc en attaquant des buffles, des antilopes, mais pas les gorilles. Pas à l'époque où j'y étais, en 85, ça fait longtemps que c'était fini. Mais simplement, ça perturbait énormément le parc et il laissait des pièges qui pouvaient blesser des gorilles.
Alors, selon vous, la piste des braconniers, vous n'avez pas l'air de trop y croire. Elle avait quelle réputation, Diane Fossé? Vous l'avez connue, elle n'avait pas un caractère facile avec tout le monde.
Alors c'était une personne qui avait un fort caractère et qui se gênait pas pour dire ce qu'elle pensait à tout le monde. Qu'elle ait eu des inimitiés solides, qu'elle ait vexé des gens, voilà, qu'il y a des gens qui la jalousaient, c'est évident. Je veux dire, si vous faites 10 ans d'études en primatologie et que vous avez quelqu'un qui a une formation de kiné pour enfants et qui occupe la première place sur le plan international, ça peut déranger du monde. Mais de là à l'assassiner, alors que son travail de protection des gorilles et de ce qu'elle avait fait était unanimement reconnu et respecté par les gens qui la jalousaient le plus, c'est un peu étonnant quand même.
Jean-Paul Marie, vous qui connaissez bien cet endroit et qui avez enquêté sur cette affaire de Diane Fossé, elle multiplie les ennemis, Diane Fossé.
Alors je crois qu'il faut... Il y a des détails qui posent problème, mais je crois qu'il faut avoir une image un petit peu plus large, qui est essentielle, qui est capitale. Diane arrive dans un endroit, il va y passer 18 ans seul, pratiquement, où il y a des monstres. Les monstres, c'est les gorilles. Monstres. Et puis elle découvre que ces monstres sont des petites choses très fragiles, inquiètes, qui n'attaquent que quand ils ont peur et surtout qu'ils sont vulnérables. Ensuite, elle est très proche de... Ça devient sa famille. Elle donne des noms. Digit, Oncle Bert, etc., etc. Et à un moment donné, même, elle tend la main dans le gazon, dans l'herbe. Il y a un petit gorille qui arrive et qui lui touche le bout des doigts. Elle dit « J'ai enfin été admise ». Elle fait... C'est sa famille. Et c'est sa famille qu'on massacre. Et c'est sa famille qu'elle trouve avec une tête décapitée, avec les mains coupées, parce que ça sert à être revendu, etc. Et puis pour prendre un petit gorille, pour l'envoyer dans un zoo en Europe, et bien on va tuer tout ce qui est autour, la sœur, la père, la mère, etc., etc. Donc on est en train de massacrer sa famille. Et Diane, qui va donc devenir extrêmement radicale. Et comme elle est radicale, elle va dire non. Et comme elle dit non, on y reviendra. Elle se met à dos, non pas une partie, mais l'ensemble de la région.
Une autre lettre qui apparemment n'a jamais été envoyée va elle aussi semer le trouble. L'ami des gorilles dit avoir découvert un trafic interdit qui rapporte beaucoup d'argent et vise beaucoup de monde. Dans une lettre datée du 24 novembre 86, soit un mois avant sa mort, Diane Fossé revient sur l'arrestation du roi des braconniers, Atageka. Ce courrier, à nouveau adressé au scientifique Yann Redmond, n'a jamais été envoyé, mais le double sur papier carbone a été retrouvé. Il a été remis à l'ambassade des États-Unis à Kigali. La primatologue indique que le braconnier est un trafiquant d'or qui opère entre le Zaïre et le Rwanda. Elle affirme qu'elle a retrouvé dans ses affaires un message adressé à son son contact de l'autre côté de la frontière. Il y est détaillé les points de passage et les lieux de rendez-vous. Un trafic qui ne peut que prospérer avec l'appui des autorités locales. Le fait que la scientifique américaine révèle ce trafic d'or secret aurait-il poussé des personnes à se débarrasser d'elle? Selon la revue National Geographic, qui a avancé cette piste, Diane Fossey était décidée à faire des révélations sur la face cachée des parcs nationaux du Rwanda, un monde où le braconnage et les trafics en tout genre, dont celui de l'or, rapporteraient gros. Reste une autre piste, évoquée par plusieurs amis de Diane Fossey. L'américaine, à travers son acharnement de voir préserver les forêts de montagne et ce coin du Rwanda, refuge des grands singes, aurait gêné l'expansion du tourisme. Impossible de développer à cause d'elle l'activité de tour opérateur dans cette zone sauvage et majestueuse, d'y implanter des infrastructures capables d'accueillir des visiteurs du monde entier et de générer ainsi de juteuses ressources pour les promoteurs. Diane Fossey, farouchement opposée à cette ouverture, gênait de toute évidence ses projets. En sa présence, la transformation de cette région du Rwanda en zone touristique restait totalement impossible. Docteur Philippe Bertrand, qui avait bien connu Diane Fossey et qui était sur place au moment où elle a été tuée, plusieurs pistes vont être évoquées, notamment les rumeurs vont s'amplifier dans ce coin du Rwanda. Vous croyez à la piste du tourisme? Dites-nous pourquoi.
J'ai aucune preuve de ça. J'ai réfléchi longtemps, des années après, objectivement, qui elle gênait. Donc elle gênait pas Owen McGuire, elle gênait pas les braconniers plus que les patrouilles officielles du gouvernement rwandais. En fait, la seule chose qu'elle gênait, c'était l'expansion du tourisme. Parce que ça, elle y était farouchement opposée, et elle avait une image qui avait quand même un certain poids de façon internationale. Et voilà, de là à la tuer, c'était franchement pas nécessaire. Il suffisait de l'empêcher de rester au Rwanda, quoi. Ils auraient très bien pu s'en occuper avec le visa.
Ils auraient pu effectivement lui supprimer son visa et l'affaire aurait été réglée, mais peut-être ça aurait fait beaucoup de bruit. Jean-Paul Marie, cette piste du tourisme, vous aussi, vous vous accrochez à cette piste économique.
Qui est-ce que Diane Fossey gêne? Tout le monde. Elle gêne les braconniers, oui, bien sûr, elle gêne les braconniers. Bon, très bien. Elle gêne les agriculteurs, parce que les agriculteurs ne peuvent pas cultiver. Ils ne peuvent pas étendre leurs champs. Puisque c'est le domaine de la montagne et c'est le domaine des gorilles. Donc elle est contre l'expansion de l'agriculture. Elle est contre un tourisme sélectif de visiter. Elle a tort. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Mais Diane Fossey est une intégriste, est une radicale. On ne touche pas à ces gorilles, on ne touche pas à sa région, on ne s'approche pas d'eux. Elles sont dominantes, majoritaires, et elle ne fait aucun compromis. D'ailleurs, cette histoire d'enfant qu'elle prend d'ailleurs...
Oui, c'est un rapt, là, incroyable.
Oui, c'est un rapt, mais elle le gave de bonbons, d'ailleurs. Donc le gosse, ouais, rentrant, dit « je veux rester avec Diane ». Et on en fait un rapt odieux, etc. Mais elle est maladroite. Elle a un caractère de kleps, de chien, je veux dire, Diane Fossey. Si vous touchez à ces gorilles, la femme qui a du cœur, qui est gentille, qui est souriante, qui sait aimer, etc., celle qui a séduit Bertrand et les autres, à juste titre, devient une furie. Ouais. Et donc, elle va dans les villages, elle hurle, elle proteste, elle menace, elle bouscule un braconnier qu'elle a ramassé, elle le fouille. Elle n'est pas tendre. Et du coup, elle apparaît comme intransigeante, comme absolue. Et le tourisme, il n'en est pas question avec elle. Mais il y a l'agriculture, il y a le tourisme, il y a les braconniers, il y a les intérêts politiques, il y a peut-être des chercheurs d'or, les trafiquants d'or. Elle bloque tout ce qui peut se faire dans ce pays et qui n'est pas normal.
Donc elle a mille raisons d'avoir mille ennemis. Fabrice Martinez, avec vous, je voudrais qu'on explore un petit peu rapidement la piste de l'or, parce que ça c'est une piste qui a été servie par la revue National Geographic, qui est une revue sérieuse. On peut y croire ou pas?
Alors, vous l'avez dit, cette histoire de trafic d'or est à relier directement avec le braconnier qui avait été arrêté, à Tegueka, puisque au moment où il a été arrêté, Diane, en représailles, lui a confisqué son soumou, c'est-à-dire son gris-gris magique, mais en même temps, elle avait découvert dans les poches de sa veste, une lettre qui parlait effectivement de trafic d'or. Alors, de ce que je peux en dire, c'est que il y a toujours eu des trafiquants dans la région des Virunga qui traversaient du sud au nord, le parc, etc., mais des trafiquants de tout poil, je parle pas uniquement d'or.
Bien sûr.
Et ça n'a jamais été un problème. Diane Fossey, la cible de Diane Fossey était des braconniers, et cette histoire de trafic d'or reliée directement avec Ategeta, qui était alors en prison. Pour moi, encore une fois, elle tient pas vraiment la route, puisque ce n'est qu'une lettre, une lettre avec des informations. Il n'y a aucun intérêt. Un trafiquant d'or n'avait aucun intérêt à assassiner Diane Fossé, pour la simple raison qu'ensuite, il y aurait eu des patrouilles, une représailles terrible. Et donc, les trafics auraient été dérangés par cet afflux de policiers.
Il aurait attiré la foudre, évidemment, sur la région et sur cette histoire. Les enquêtes vont s'éteindre. Trafic d'or, braconniers, crimes gratuits. La guerre civile qui va dévaster le Rwanda va ruiner quasiment tout espoir de connaître un jour la vérité. Après la condamnation à mort infligée en décembre 86 au chercheur Wayne Maguire, la justice rwandaise n'a plus jamais rouvert le dossier de Diane Fossé, se contentant de ce coupable parfait, rapidement arrêté et condamné. L'effroyable guerre civile qui allait éclater 11 ans après le meurtre de la scientifique semble avoir anéanti toute chance de relancer les investigations. Les dossiers d'enquête, procès-verbaux, d'auditions, photos, tout ce matériel est parti en grande partie en fumée, détruit dans le chaos des affrontements. Les quelques pièces qui subsistent ne seraient pas susceptibles de livrer la moindre indication. Les échantillons de cheveux que serrait la scientifique lors de sa mort dans sa main, un élément capital. Ces échantillons ont connu un sort tout aussi funeste. Ceux adressés à un laboratoire d'analyse parisien n'ont jamais été retrouvés, tout comme ceux reçus par le FBI, dont personne ne sait ce qu'ils sont devenus. 36 ans après sa disparition, personne ne sait qui a tué Diane Fossé. Et pourquoi ? La primatologue repose sur les pentes du mont Visoké, au milieu d'un petit cimetière où sont enterrés les gorilles qu'elle protégeait. Fabrice Martinez, fondateur de l'association Gorilla, ancien commandant de police, qu'est-ce qu'on peut dire de ce dossier d'enquête ? Est-ce qu'il reste déjà des pièces qui sont aujourd'hui exploitables ou qui pourraient faire rebondir les investigations d'une manière ou d'une autre ?
Alors, ce dossier était éminemment complexe, on l'a dit tout au cours de l'émission. Il reste quelques pièces, quelques auditions. Il reste un dossier judiciaire, une archive de l'affaire Diane Fossé. Pour autant, effectivement, ça ne suffit pas. Il manque dans cette affaire des éléments matériels. Les éléments matériels qui auraient pu être effectivement ses cheveux. C'est sur quoi l'enquête aurait dû se focaliser, parce que c'est la pièce maîtresse, on va dire, de ce dossier. Aujourd'hui, avec la technique de l'ADN, on aurait pu identifier sans aucune difficulté l'auteur de ce crime. Mais malheureusement, ni le FBI, ni le laboratoire parisien a conservé ses cheveux. Et ça, ça pose question et ça pose évidemment problème.
On a le sentiment, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Paul Marie, mais on a le sentiment que finalement on n'a pas fait grand-chose dans cette enquête. Et je ne dis pas seulement du côté du Rwanda, mais de tous les côtés, américains, etc.
Vous avez raison, mais je pense qu'il ne faudrait pas sous-estimer l'enquête rwandaise. Je peux vous dire, pour avoir lu quelques procès-verbaux, ils ont fait quand même une enquête relativement correcte. Ce qui manque dans cette affaire, c'est l'implication formelle des Américains. Monsieur Marie l'a dit tout à l'heure, il aurait simplement fallu qu'on coupe une petite touffe de cheveux sur le crâne de Maguire pour le comparer aux cheveux qui ont été retrouvés dans la main de Diane Fossé, puis l'affaire était là encore entendue. Mais ça n'a pas été fait, ou alors officiellement ça n'a pas été fait, parce que je vois pas comment le FBI se priverait d'une telle vérification. Vous savez, la technique à l'époque n'était pas celle d'aujourd'hui, mais quand vous avez un suspect qui est américain, vous avez des cheveux dans la main de la victime qui est américain et vous ne les comparez pas, là encore ça pose question.
Oui, ça pose question effectivement, et des questions dont on n'a toujours pas la réponse. Docteur Philippe Bertrand, on peut dire qu'elle a payé de sa vie son travail, Diane Fossé ?
Oui, complètement. D'ailleurs, elle y avait totalement consacré sa vie. Elle n'avait pas spécialement de vie privée en dehors de ça. Elle vivait là-bas dans des conditions qui étaient difficiles sur le plan de l'isolement, sur le plan de la santé aussi. C'était difficile pour elle physiquement. Oui, sa vie était déjà entièrement consacrée à ça. Elle a probablement été assassinée à cause de ce qu'elle a fait, à cause de son travail. Donc oui, on peut dire qu'elle a consacré sa vie et qu'elle y a perdu la vie. Ouais.
Il y a peu de chances, docteur Bertrand, que l'on sache un jour qui a tué Diane Fossé.
On ne saura jamais qui a tué Diane Fossé, parce que si quelqu'un devait parler, ça fait longtemps que ce serait fait, qu'un certain nombre de protagonistes, de gens qui ont été suspectés ou qui pouvaient savoir quelque chose sont morts, ont été exécutés ou sont suicidés. Donc je vois mal qu'on puisse aujourd'hui refaire une enquête qui ramène des renseignements autres que des convictions et des opinions. personnel.
Jean-Paul Marie, grand reporter et écrivain, je vous pose exactement la même question. Est-ce qu'on aura une chance un jour de savoir qui a tué Diane Fossé?
Je crois que c'est ce qui est moins important. C'est pour ça peut-être qu'on ne trouve pas la réponse. C'est pas de savoir qui l'a assassiné, mais qui l'a fait assassiner. Parce que Diane Fossé, encore une fois, s'opposait à des intérêts importants. Et un braconnier ne va pas, ou quelqu'un d'autre ne va pas tuer comme ça Diane Fossé sans être un peu couvert ou en tout cas autorisé. Et si on sait qu'il y avait le ministère de l'Agriculture qui était vraiment très fâché, le ministère du Tourisme qui était fâché. Il y a d'ailleurs un haut fonctionnaire rwandais, un Hutu, qui exilé, qui a laissé échapper comme ça une phrase à demi-mot disant que bon, ben voilà. Hein. Et donc, si vous voulez, elle heurtait trop d'intérêt, elle bloquait trop d'intérêt, et c'est au niveau, je pense, du pouvoir, le ministère du Rwandais, des intérêts premiers, qu'il faut chercher la solution. Vous savez, j'ai fait une enquête sur Chico Mendes, qui est un écologiste qui luttait contre la destruction de la forêt amazonienne, parce que lui, il écorchait les EVA pour les saigner, mais il les abattait pas. Et puis, il a été abattu de plusieurs décharges de coups de fusil par trois personnes. On a compris, on a su assez vite qui l'avait tué. D'ailleurs, lui, il avait dit, c'est eux qui vont me tuer. Donc, Chico Mendes, qui est un écologiste, lui aussi, il heurtait les intérêts des banquiers, des agriculteurs, des éleveurs de bétail, de tout le monde. Eh bien, on sait qui l'a tué, mais qui l'a fait tuer? Ce ne sont pas les tueurs, on sait très bien qui l'a fait tuer. Et vous avez, je le rappelle, dans le monde, chaque année, 200 écologistes qui se font assassiner dans le silence quasi général parce qu'ils heurtent des intérêts financiers importants.
Et c'était le cas.
Et politique.
Ce que vous nous dites pour Diane Fossé. Merci beaucoup, Jean-Paul Marie. Merci, docteur Philippe Bertrand. Et puis, évidemment, Fabrice Martinez, fondateur de l'association Gorilla, d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.